Chapitre 8. 14 décembre 1916. Christian m'écrivit le 5 août. « Prends garde à Olga. Je croyais qu'elle renonçait à une idée dont Jean m'avait parlé, car ils ont causé assez longtemps ensemble quand Ravel, en permission, a passé à Paris. Mais je prends le retour offensif de l'ennemi, c'est-à-dire de la déraison. Beaucoup de jeunes femmes ont été et sont déraisonnables. » Elles rejoignent leurs maris au front en se cachant, malgré la défense formelle de nos chefs. Cette défense, étudiée à fond par nos généraux, est parfaitement sage, ceux qui s'y soustraient sont coupables. Bien folles, ou coupables également, les femmes qui encouragent ou provoquent de telles faiblesses. On leur trouve des excuses et des complices. L'expédition réussit parfois, mais elle peut tourner au déshonneur ou à la mort. Raconte le fait suivant à Olga si tu la vois. Le 15 du mois dernier, une jeune femme a traversé les lignes et, cachée dans une ferme, a passé 4 jours avec son mari. Dans la nuit du 19 au 20, la compagnie de l'officier est allée à l'attaque sans son lieutenant. Il a été fusillé. Dame Cendrillon, tu as quelque influence sur cette petite tête volontaire. Agis, mais ne parle de rien à maman. Elle a bien assez de ses angoisses sans lui donner un sujet de préoccupation aussi ridicule. Peut-être ne comprendrait-elle pas le danger, peut-être sourirait-elle de l'empressement d'Olga. J'ai vu ce sourire chez d'autres mères, mais personne ne plaisante au front sur une défaillance d'officier. La sévérité de Christian me parut jeune, c'est-à-dire excessive. Que la pauvre Olga eut l'ardent désir de revoir son mari, rien de plus naturel. Et bien que je blâmasse les équipés dont parlait Christian, je ne voyais rien à craindre pour Amy, dont je connaissais la tête froide. Néanmoins, ma sœur étant venue peu de temps après les recommandations de Christian, je racontai devant elle l'affreuse aventure qu'il me relatait en quelques mots. « Je comprends très bien, me dit-elle, que cette jeune femme soit allée au front. J'en ferai autant le cas échéant. »« Quoi ? Tu risquerais d'amener une telle catastrophe ?» Une pareille catastrophe n'arrive pas une fois sur mille. Elle est tombée sur un hasard inouï, et l'inouï est rare, si rare que j'ai des doutes sur l'authenticité de cette histoire. Christian, s'il y avait doute, ne la raconterait pas. L'inouï n'existe pas, puisque nous sommes en guerre, Olga. On vit dans l'imprévu et l'extraordinaire. Il me semble que l'idée seule d'être la cause d'un tel fait me rendrait folle. Elle ne répondit pas. « Puis, dis-je un peu timidement, chacune de nous doit être disciplinée. »« Propos de femme non mariée, » dit-elle en riant. Je voyais tout le chimérique de mon influence. Touchée par l'indépendance qui passe sur les jeunes femmes, par cette sorte d'ironie qu'elles ont facilement pour les vues des femmes qui ne connaissent pas la vie matrimoniale, Olga dédaignait les conseils de celle qui l'a jugée avec le plus d'indulgence. Je sais bien, en effet, que le fond de sa nature est excellent. Les douloureux événements m'ont donné raison. Un mois après son départ, nous apprenions que Rémy était gravement blessé. Il était évacué près d'Amiens et Olga, déjà partie, m'appelait près d'elle. Ma mère attendait Christian et je partis seule. Dans le train qui, de Paris, m'emportait vers l'hôpital d'évacuation, je voyageais avec des soldats et une seule femme. Elle allait voir son fils mourant. Nous traversâmes une zone dangereuse. Des obus éclataient non loin de nous, pendant que le train, tout feu éteint, courait dans la nuit noire. C'était lugubre. Je regardais les éclatements. Ils illuminaient un instant l'horizon. Par moments, des fusées éclairantes. Plus d'une fois, elles rendirent notre position critique, et j'avais l'impression de n'être plus moi dans cette atmosphère de guerre. Bientôt, la zone fut franchie, et bien que nous eussions à redouter les avions, j'entendis déclarer que le danger était écarté. Aussitôt, il se produisit un mouvement dans les couloirs. Les soldats se mirent à plaisanter, puis à raconter les dangers courus dans les affaires où ils avaient été mêlés. Je les écoutais avec un vif intérêt, observant la diversité de leurs caractères. Les uns grognaient, mais la plupart conservaient de la bonne humeur. Je trouvai l'hôpital d'évacuation à 15 kilomètres du front, dans un bourg dont les habitants avaient fui. Cependant, il restait deux auberges, habitées par les propriétaires, qui profitaient des circonstances pour gagner largement leur aisance à venir. L'ambulance, installée dans un couvent, était encombrée. Rémy avait la jambe gauche emportée et une blessure à l'épaule. Olga, le visage décomposé, me serra dans ses bras sans rien dire et me conduisit près du blessé qui ne reconnaissait personne. « Il est mieux cependant, » me dit Olga tout bas, « il est mieux. » Hélas, quel mieux précaire! Ma figure exprimait mon doute car ma pauvre sœur reprit « Le mieux est certain, le major l'a dit. » Plus tard, je lui demandai « Comment a-t-il été blessé? Tu as des détails ?»« Comment il a été blessé, mais comme tous les autres ?» me dit-elle d'un air contraint. Nous étions au milieu du jour dans notre petite chambre d'auberge. Olga s'était assise à la fenêtre, entourée de pampres poussiéreux. Rien de calme autour de nous. Le canon mugissait. Des avions ennemis apportaient sans cesse une menace et, dans le bourg, jour et nuit, passaient des voitures d'ambulance qui amenaient ou remportaient les blessés. Olga, la main dans ses cheveux bouffants, regardait sans voir, écoutait sans les entendre les bruits de la lutte qui l'épouvantait à fleur. Quoiqu'infiniment plus violent, il n'effrayait plus son âme, absorbée par une pensée qu'elle me cachait. « On le sauvera ! On le sauvera ! » s'écria-t-elle en se levant brusquement. Je l'examinai avec surprise, sans oser la questionner. Son cri, où se mêlait une irritation incompréhensible, me glaçait au lieu de m'apitoyer. Trois jours passèrent sans amélioration, trois jours extraordinairement mouvementés par le passage de troupes, le roulement de l'artillerie et le canon tonnant sans arrêt à quelques kilomètres de R. Le 14 septembre, il y eut un calme relatif. Les Allemands, refoulés légèrement, devinrent presque silencieux, mais la veille et le matin, les blessés affluèrent. À cette date précise du 14, Rémy reconnut sa femme et nous commençâmes à espérer. Dans l'après-midi, je croisai un aumônier qui m'aborda. « N'êtes-vous pas, me dit-il, la sœur de Madame de Cerdeau ? Oui, moi, je suis l'aumônier provisoire de cet hôpital. » Il me fit traverser une cour et entrer dans un cabinet situé à l'extrémité des bâtiments, réduit encombré d'effets militaires, de musettes, de sacs et d'objets les plus divers. Dans ce pêle-mêle, l'abbé avait dégagé une table et deux chaises. Il se réfugiait dans cet endroit pour écrire des lettres aux familles des blessés ou, du moins, classer les notes prises au chevet des soldats. « Croyez-vous, demandai-je, que nous réussirons à sauver M. de Cerdeau ?» Il va bien mal, mais j'en ai vu revenir de si loin. Il a été magnifique d'audace, d'allant. Magnifique d'audace, répétai-je étonné. Ma sœur ne m'en a rien dit. Sa belle conduite au feu est indiscutable. Que ce silence d'Olga me semblait singulier. Et l'aumônier gardant le silence, je continuai. Je croyais M. de Cerdeau, doué surtout de sang-froid, d'un grand courage évidemment, mais courage qui n'excluait pas la pondération. Ce courage est, selon moi, une grande qualité, mademoiselle, mais il ne ressemble pas à l'ardeur qu'a mise M. de Cerdeau à entraîner ses hommes et surtout à mépriser le danger pour lui-même. Il avait l'air, paraît-il, de s'exposer volontairement. Je commençais à comprendre. Pourquoi ? Il faut vous dire, mademoiselle, que votre beau-frère n'a pas pris part aux heures d'inquiétude, d'angoisse qui précèdent l'action. Il est arrivé à l'instant précis du départ. Cinq minutes plus tard, les hommes, déjà assez décontenancés par son absence, partaient sans lui. Il était en faute alors? Indiscutablement, et j'ai su que... L'abbé hésitait. Quoi, monsieur l'aumônier, vous pouvez, vous devez tout m'apprendre. J'ai l'impression, en vous voyant, qu'on peut en effet tout vous dire. Eh bien, Madame de Cerdeau, cachée dans un fourgon, a commis l'imprudence de traverser les lignes, et sa présence a été cause du manquement de son mari au devoir militaire. Je la blâme, dis-je vivement, mais croyez bien qu'elle n'eût jamais retenu son mari si elle avait su qu'une attaque se préparait. Le demi-sourire de l'aumônier m'attrista. Je l'espère, quoi qu'il en soit, il a fallu que M. de Cerdeau fît partir sa femme, ce qui l'a encore retardé. Et enfin, ajouta-t-il d'un ton indulgent, les adieux de jeunes époux ne sont pas aussi rapides qu'un éclair. Enfin, ma sœur ne savait pas qu'il y aurait attaque. Ce n'est pas présumable. M. de Cerdeau, évidemment, ne lui aura parlé que d'un déplacement urgent. Ah, vous voyez, elle a su qu'ils étaient exposés volontairement. Oui, mademoiselle, Madame de Cerdeau a questionné le capitaine de la compagnie. Blessé lui-même, mais légèrement, il n'est pas resté ici. Cependant, Madame de Cerdeau est arrivée à temps pour le voir. Elle a questionné d'autres hommes qui étaient à l'attaque et tous sont du même avis. Avec plus de prudence, M. de Cerdeau ne serait pas tombé, affreusement blessé. Je comprenais tout maintenant. Je vous remercie de ces tristes détails, monsieur l'aumônier, dis-je en me levant. J'ai cru, dit-il simplement, qu'il était préférable que vous fussiez instruite des faits. Bien préférable. Oui, vous pensez avec moi que votre sœur aura besoin d'épancher l'angoisse qui l'oppresse? Ah, vous avez remarqué? J'attendrai le moment favorable. C'est cela. L'aumônier me reconduisit à une sortie. En suivant un long couloir, il s'arrêta un instant devant la porte de la dernière chambre. Que de malheur, de misère! Dans cette pièce, un pauvre jeune major est dans le coma. Je l'ai connu l'année dernière. Nous étions dans le même régiment. Une brave, excellente nature que j'ai eu le temps d'apprécier. On l'a apporté cette nuit. Aucun des siens n'aura le temps d'arriver. Que de cas semblables! Hélas, sans doute, mais je m'étais attachée à ce docteur et sa perte m'attriste comme celle d'un ami. Triste, affreux, et pourtant il faut se cuirasser contre tant de douleurs. Pendant la soirée, je réglais mon attitude sur celle d'Olga. Pauvre Olga, si elle se voyait la cause indirecte des terribles blessures de son mari, c'était trop douloureux. Elle garda le silence et ne me parla que de son espoir, confirmé par un mieux persistant. Je dormis peu la nuit suivante. Les angoisses présentes et à venir me hantaient. Ensuite, je songeais à ce major qui allait mourir seul, car les paroles de l'aumônier m'avaient particulièrement frappé en me reportant vers Jean, dont le sort, un jour, serait peut-être semblable. Au milieu de ce carnage positif ou probable, mon cœur faiblissait. Le lendemain, je suivais distraitement le couloir de la veille quand je m'aperçus que je passais devant la chambre où avait été déposé le major. La porte était entr'ouverte et j'entrai pour savoir si déjà un blessé l'avait remplacé. Mais non, il était là, étendu sur un petit lit de fer, son cœur ne battait plus et son visage, embelli par la mort, gardait le reflet des souffrances endurées. Jean, ami de notre jeunesse! Les souvenirs se levaient en légion pour auréoler cette tête mutilée et le passé secoué des cendres parfumées sur le silence que je contemplais. Impression fugace, effacée, mais quoi donc sanglotait au fond de moi-même? Dans mon saisissement, j'avais tout oublié et j'ignore le temps de ma contemplation. Elle fut troublée subitement par la voix de l'aumônier. « Vous ici, mademoiselle, connaissiez-vous donc le major Ravel ?»« Beaucoup. C'était un ami d'enfance. Nous étions du même âge. Sa mère, sa sœur sont très liées avec nous. »« Ah, si j'avais su, hier je vous aurais dit son nom. »« Mais qu'auriez-vous fait, il est vrai ?»« Il n'a pas repris connaissance ?»« Non, il est parti ce matin à 8 heures. » Seul, j'étais près de lui. Il n'avait pas eu la souffrance de se sentir loin des siens, mais je le connaissais assez pour savoir qu'il eût préféré souffrir et regarder en face sa venue prochaine près de Dieu. Je n'ai pas pensé un instant que ce jeune major dont vous me parliez était lui. Je le croyais, je le savais dans une autre région. Il n'était que depuis 8 jours dans son dernier régiment. Sa mère, quand sera-t-elle prévenue? Immédiatement. Désirez-vous vous charger? Non, j'écrirai à sa sœur. Mais vous, monsieur l'aumônier, écrivez à madame Ravel en donnant tous les détails possibles. Jamais elle n'en aura assez. Soyez assuré que je ne manquerai pas de remplir, aujourd'hui même, cette triste mission. Après m'avoir regardé, il demeura quelque temps silencieux, puis prononça le mot d'immortel apaisement. Quand le juste mourrait d'une mort précipitée, il se trouvera dans le repos. Et il ajouta cette pensée de Lacordaire. Toutes les séparations du temps ne sont qu'un rendez-vous pour l'éternité. Nous sortîmes de la chambre et l'aumônier me dit « En dehors de l'émotion, vous avez dû être bien étonné de retrouver là un ami. » « Non, je vis dans un état moral qui ne permet plus les impressions ordinaires. Mon saisissement n'était pas de l'étonnement. » L'abbé me tendit la main sans rien ajouter. Il m'avait comprise mieux, je crois, que je ne me comprenais moi-même. J'écrivis aussitôt à Berthe Ravel et cachai provisoirement à ma sœur la mort de l'homme qu'il avait vainement aimé. Son image repose désormais derrière le voile que toujours j'ai volontairement jeté sur elle. Mais qu'est-ce qu'un chagrin personnel, un sentiment, un souvenir, au milieu des catastrophes et des douleurs qui m'entouraient? Mon impression poignante, en face de la mort isolée, me suggéra une idée que je soumis sans attendre à l'aumônier. Les services étaient débordés, les infirmières, en trop petit nombre, doublaient leur travail et beaucoup de blessés mouraient seuls. Pendant le temps que je passerai ici, je pourrai, dis-je, aller près de ces abandonnés. Vous auriez ce courage, on assiste à des scènes terriblement impressionnantes. Je répondis simplement que j'avais une confiance très limitée en moi-même, mais que j'essaierais, si on me permettait, et que, d'ailleurs, j'étais capable de donner un verre d'eau à ces malheureux. Eh bien, je parlerai aux autorités. Je doute de réussir, vous ne faites partie d'aucune société. Contre ces prévisions, la permission me fut accordée. On me prêta une blouse, un voile d'infirmière, et je m'absorbais dans ma mission. Elle convenait à mon cœur, à mon incapacité, et reléguait au second plan ma douleur personnelle. En voyant une femme près d'eux, ces hommes, qui appelaient leur mère, ont-ils été un peu consolés? Quand je leur tenais la main, l'ombre d'un passé tranquille a pu, comme une douceur, passer sur leur agitation et leur souffrance. Que sait-on? Ces événements, ces souffrances sans mesure, devaient agrandir sans mesure notre bonté, et ouvrir pour toujours nos horizons trop fermés. Souvent, dans la nuit, je m'éveille en sursaut, je revis ces jours pénibles qui m'ont tant appris et confirmé dans l'idée qu'il faut semer la bonté sans se soucier du résultat. La graine germera sous une influence supérieure à nous. 3 semaines après avoir recouvré sa connaissance, Rémy fut envoyé dans une ambulance à l'intérieur. Il était sauvé. Et avec un immense soulagement, nous partîmes en avant afin d'être à J quand il arriverait. Olga, détendue mais profondément triste, ne m'avait fait aucune confidence. J, que nous ne connaissions pas, était encombré de militaires et de réfugiés, et je vis le moment où nous allions être obligés de chercher un gîte dans les environs. « Que faire ?» me dit Olga, découragée. L'idée nous vint d'aller trouver le curé de l'église Saint-Jean. Il nous adressa à une brave femme qui avait à sa disposition 2 chambres, très petites mais propres, que nous louâmes aussitôt avec empressement. Nous prenions nos repas à l'hôtel où nous achetions des provisions pour les manger dans notre chambre. À la guerre comme à la guerre. Jamais le mot ne fut mieux appliqué et sans la tristesse d'Olga, cette installation de fortune, dans un cadre charmant, ne m'eût pas déplu. Pendant qu'Olga était près de son mari, je me promenais dans la petite cité aux rues grimpantes, aux vieilles demeures, dont les angles sont ornés de statues anciennes et navives. Je rêvais en détaillant des maisons curieuses avec leur enchevêtrement de bois, leurs toits rapides en auvent et leurs petites fenêtres à carreaux minuscules serties de plomb. Mais je ne devais pas demeurer longtemps à J. Madame de Cerdeau annonça son arrivée et je lui cédai ma chambre, heureuse du reste, maintenant qu'on n'avait plus besoin de moi, de retourner à Fleurs. La veille de mon départ, j'emmenai Olga se promener, décidée à provoquer ses confidences. Elle était bien pâle et mon cœur se serrait en la regardant. Rémy avait bien supporté le voyage. On nous assurait que ses progrès seraient rapides, Et, malgré tout, je ne m'expliquais pas la recrudescence de tristesse que j'observais dans l'attitude de la jeune femme. Elle connaissait la mort de Jean, Berthe Ravel lui avait écrit, mais la nouvelle avait glissé sur elle sans l'affecter sérieusement. Nous longions silencieusement les bouquets, et à mon admiration pour des platanes magnifiques plantés jadis par un gondi, Olga ne répondit pas. Le temps était si beau que nous nous assîmes sur des troncs d'arbres déposés sur la berge. Dans cette journée d'automne, aussi chaude qu'un jour d'été, la ville aux Trois-Rouges patinée, posée comme un jouet au flanc des coteaux de Bourgogne, était délicieuse. À ses pieds, Lyonne, la charmante, fuyait au loin entre les arbres. Une batelière la traversa, puis, revenant au milieu de la rivière, remonta le courant en battant l'eau régulièrement. Des vendangeurs sur les coteaux paraissaient grands comme des habitants de Lilliput, et tout était si paisible, si joli, qu'on refusait de se croire en guerre. Il y avait, dans la nature apaisante et belle, ce je ne sais quoi qui serait le bonheur si on pouvait le saisir. Mais nos cœurs souffraient, et je m'efforçais d'oublier le mien pour attirer Olga dans la voie qui devait soulager sa peine. « Ton mari est sauvé, lui dis-je. Pourquoi t'absorber dans une telle tristesse ?»« C'est affreux, affreux de le voir mutilé !»« Tu redoutais un plus grand malheur, Olga ?»« Oui, mais... » Elle s'arrêta et affecta de s'intéresser à Lyonne, qui clapotait presque à nos pieds. « C'est joli, n'est-ce pas ?»« Pourquoi te dérober à ma question ? Pourquoi ne pas jouir du salut de ton mari ?»« Tu ne sais pas tout !» Elle se leva brusquement et s'approcha si près de Lyonne que je la rappelai vivement. « Si, je sais, lui dis-je. « Que sais-tu ? » Je lui racontai succinctement ma conversation avec l'aumônier. « Eh bien, Marguerite, n'est-ce pas horrible ? S'il s'est tant exposé, c'est parce qu'il avait manqué à son devoir et il a commis une faute parce que j'étais là. » Que répondre ? Des lieux communs ? Je n'en eus pas le courage. « Tu étais venu sur sa demande ? » ?»« Non, il me conseillait de n'en rien faire. » « Et comment as-tu réussi à exécuter ton projet ?»« Par une amie qui était allée voir son mari dans la même région. » J'ai suivi la voie et employé les moyens qu'elle m'indiquait. Seulement, tout a bien marché pour elle, tandis que moi... Ne dis rien, je suis inconsolable. Nous continuâmes dans un lourd silence à regarder la rivière et, sur la berge opposée à la nôtre, la ville si bien éclairée par le beau soleil d'automne. Mais bientôt, je ne résistais pas au désir de consoler Olga. Il eût été blessé peut-être sans son imprudence. L'attaque était chaude. N'exagère pas ta part de responsabilité. » Elle répondit d'une voix découragée. « Il me l'a déjà reproché. » Quelle absence de générosité! Heureusement, je retins ces paroles que mon cœur criait et je compris l'accablement de ma pauvre sœur. Mais il l'aimait et bien que l'avenir me parût inquiétant, j'essayai de raisonner Olga et de me raisonner moi-même. « Il souffre tant !» Sous l'empire d'une grande souffrance, une parole, même cruelle, perd sa portée. Ton affection pour lui a été plus forte que ta raison. Il se le dira et, plus tard, regrettera son reproche, car il t'aime. Oui, il m'aime, et tu as raison, quand on souffre, les paroles dépassent la pensée. Mais moi, je ne me pardonnerai pas mon imprudence. Le temps adoucira cette amertume et il aura tant besoin de toi. Ton dévouement plus grand sera le meilleur élément d'union. » Olga répondit simplement, « Je ferai tout ce que je pourrai. » Je sais qu'elle le fera, mais la blessure a pénétré et la réponse de ma sœur était grosse de doutes. Ces doutes me poursuivent malgré moi. Que nous sommes loin de ce beau jour des fiançailles où le bonheur et les souvenirs s'alliaient avec tant de grâce sous nos arbres centenaires. Un monde plein d'horreurs, plein de ruines, nous sépare du mois fleuri, si chargé d'espoir. Nous ne sommes pas revenus sur notre conversation, et le lendemain, je suis partie pour Fleurs. Ma mère m'accabla de questions. Je crus sage de garder le silence, non sur l'aventureux voyage impossible à cacher, mais sur le secret d'Olga. Je fus bien surprise, 15 jours plus tard, en recevant une lettre confidentielle de Christian, qui connaissait le côté douloureux des choses. Il en parlait avec une modération qui m'eût étonnée si je n'avais connu sa bonté. Olga est trop punie de sa déraison. Je suis certain que si tu as connu les faits d'avant moi, tu auras consolé et aussi rassuré cette pauvre petite, car Rémi pouvait être blessé sans cette désastreuse coïncidence. Je pense que nous serons du même avis pour ne pas tout dire à Fleur. J'apprends par maman la mort de Jean, mais presque incidemment, et je comprends qu'une lettre a dû se perdre. Toi, tu ne m'en as pas encore parlé. Une belle fin pour une vie si courte. Son impression au sujet d'Olga me fit plaisir, mais ses mots brefs sur la mort de son amie... Le soldat parlait, le soldat en guerre, et son langage ne peut être celui d'une femme. Si tu voyais Olga, lui écrivis-je, ta pitié s'accentuerait encore. Elle est tellement affligée et s'adresse de tels reproches que je ne sais comment la consoler. Jean est mort dans l'ambulance même où était soigné Rémi. Par hasard, je l'ai vu dormant son dernier sommeil et gardant sur son visage l'empreinte que l'esprit élevé avait laissée en partant. Ma phrase, selon moi, ne donnait lieu à aucun commentaire, mais Christian a beaucoup de clairvoyance et surtout, j'avais été bien maladroite en ne surmontant pas ma répugnance à parler de notre ami. Pourquoi ne m'as-tu pas appris aussitôt la mort de Jean ? Ah, Cendrillon, comme tu sais bien vivre caché sous l'âtre ! Mais je m'arrête. Je me demande seulement pourquoi tant d'hommes et tant de femmes aiment à contresens. Ma réflexion n'est pas pour toi, applique-la comme tu l'entendras. Que le passé reste le passé. S'appesantir sur l'évanoui est une mauvaise hygiène morale. Si on le fait malgré soi, que la volonté s'efforce de mettre une barrière entre le fini et la vie qui marche. Mais les récits de Jean me deviennent plus précieux. C'est le dernier souvenir d'une existence qui a été longtemps mêlée à celle de Fleur. Je n'en parlerai jamais à Christian.